n'entend pas, on entend.
102.9.
Vous êtes sur fréquence missionnaire sur
102.9.
Salut, c'est Annabelle.
Salut, c'est Flora.
Salut, c'est Cédric.
Bonjour, c'est Emmanuel.
Bonjour, je m'appelle Vanessa.
Salut, c'est Laurie.
Salut, c'est Gauthier.
Bonjour, c'est Vanessa.
Salut, c'est Claire.
Salut, c'est Charlène.
Bonjour, je m'appelle Flavie.
Salut, c'est Marie.
Salut, c'est Julien.
Salut, je m'appelle Émilie.
Salut, c'est Delphine.
Ça se passe au collège Arthur Rimbaud de 18h à 19h.
Vous écoutez Fréquence Buissonnière sur 102.9 à Chalandray, Héron,
Froze,
Le Rochereau,
Maillé,
Latillé,
Chirin-en-Montreuil,
Vouillé,
Quincé,
Benasset,
Lavosseau,
Montreuil-Bonin,
La Chapelle-Montreuil.
Ça se passe au collège Arthur Rimbaud de 18h à 19h.
Fréquence Buissonnière.
Salut, c'est Mickaël, vous êtes sur Fréquence Buissonnière 102. Combien ?
Dans notre deuxième haie, il y a
l'interview par l'école de Benassé,
grande section ACM2,
de Laurent qui travaille dans la forêt de Chizé. Il y a des tas d'animaux interviewés par une jeune journaliste de l'école de Latillé,
CE2CM1.
On y croise aussi Annie de Froze, un crapaud et un escargot de Quincé.
Grande section maternelle ECP.
On y entend de la poésie de Vouillé.
CM1-CM2.
Comme chaque jour, nous retrouverons le feuilleton, The Météo, le sport, bref, nos rubriques habituelles.
Et nous retrouverons sur le plateau du jour le recteur de l'Académie de Poitiers.
102.9.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fréquence Buissonnière, dans notre émission Découverte naturelle, avec Lise, Amélie et Marine. Aujourd'hui, nous allons interviewer Laurent, qui travaille sur la forêt de Chizé au sud de Sens.
As quatro estações. No ano tem mês, dias, horas, trimestres. Me tem quatro estações. A primavera, o verão, o outono, o inverno. Les quatre saisons. Dans l'année, il y a des mois, des jours, des heures, des trimestres. Mais il y a quatre saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. De manhã, os pássaros que cantam e o sol brilha. No outono, o tempo muda. Os pássaros partem, o sol dorme e a chuva vem nos molhar. As aves ficam sem folhas. No inverno, a neve cai.
Como as árvores possíveis?
Ben, les arbres, ce sont déjà des êtres vivants, comme vous, comme moi, seulement eux, ce sont des végétaux. Et ils ont besoin de quoi? Eh ben, ils ont besoin à la fois de lumière, ils ont également besoin d'eau, et donc par conséquent, il va falloir qu'ils se trouvent dans des endroits où il y a énormément de lumière et beaucoup d'eau. Et en fait, pour se nourrir, eh ben, ils vont tout simplement utiliser leurs racines pour absorber toute l'eau qui est... Alors, ils vont absorber de l'eau, ils vont également absorber des sels minéraux, c'est toute la nourriture qu'on va pouvoir trouver dans le sol. Ils vont absorber tout ça avec leurs racines. Ensuite, au niveau de leur tronc, il va y avoir différents petits tuyaux. C'est un petit peu compliqué, donc je ne vais pas utiliser ces termes-là. On va appeler ça des petits tuyaux. Et il y a des petits tuyaux qui vont nous faire monter toute cette nourriture jusque dans les feuilles. Les feuilles, ce sont des petites usines. Et ces petites usines, elles vont fabriquer de la matière. Et cette matière, eh bien, ça va être tout simplement du bois. Plein de petites cellules. C'est ce qui va nous permettre ensuite d'avoir de jolies branches sur les arbres. Et puis, eh bien, cette circulation va se faire. Donc la nourriture va monter par des tuyaux jusque dans les feuilles. Les feuilles vont récupérer la lumière. C'est des petites usines qui vont fabriquer plein de matière, plein de bois. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle de la sève élaborée, qui va redescendre par d'autres petits tuyaux pour aller jusque dans le tronc, pour que le tronc puisse se développer. Donc un arbre, pour vivre, il a absolument besoin de racines, de petits tuyaux pour faire monter toute cette nourriture, des feuilles qui, elles, fabriquent toute cette matière, et d'autres petits tuyaux qui vont faire redescendre cette sève élaborée, qui, elle, va permettre ensuite à notre arbre, et surtout à notre tronc, de grandir tout doucement.
Dans un monde rural, mais en réalité, Annie de Froze, par exemple, moi, les enfants que j'ai dans ma classe, très peu ont des parents agriculteurs. Cette année, j'ai la chance d'avoir deux enfants dont les parents sont agriculteurs, c'est extrêmement rare. À la rigueur, les grands-parents sont agriculteurs, les arrière-grands-parents l'ont été, Mais actuellement, les gens qui vivent dans les villages travaillent plutôt dans des services ou à Poitiers, à l'hôpital.
Dans ma ville, il y a de la neige, l'été, l'hiver, il y en a. Tous les jours, on fait des bonhommes de neige et puis mes yeux qui clignent comme ça. Dans mon quartier, il y a des voisins, ma copine Anya, des graffitis en forme de 1 et puis mes yeux qui clignent comme ça. Dans ma rue, il y a un rond-point avec des arbustes. Il y a aussi des personnes qui se promènent avec des cobras. Il y a aussi des hommes qui sont rustres. Et puis mes yeux qui clignent comme ça.
Pourquoi les serpents sont-ils venimeux?
Ah, pourquoi est-ce que les serpents sont venimeux? Eh bien déjà, ils ne sont pas tous venimeux, les serpents. Il y en a certains qui sont venimeux, comme ben, vous les connaissez peut-être d'ailleurs. Est-ce que vous en connaissez un serpent qui est venimeux?
Non.
Alors, celui qu'on a vu hier, est-ce qu'il était venimeux ou pas?
Non, il était gentil.
Eh oui, c'était un animal qui était gentil, qui n'était pas venimeux parce que c'était tout simplement une couleuvre. Et il y a certains serpents, comme les vipères, qui, elles, ont ce qu'on appelle un petit sac, une petite glande sur la tête qui fabrique un poison. Ce poison, c'est du venin. Et en fait, ben, pourquoi ils sont venimeux? C'est tout simplement pour pouvoir tuer des proies. Les proies, ben, c'est les animaux qui vont manger. Et bien, une vipère, par exemple, elle va pouvoir manger des petites souris. Et pour tuer sa souris, ben, elle va être obligée de mordre la souris, d'injecter ce venin, ce poison à l'intérieur de la souris, ensuite elle va attendre que la souris soit paralysée et puis ensuite la souris va mourir. Et une fois qu'elle sera morte, le serpent va pouvoir manger cette souris. Donc c'est pas du tout pour embêter les gens. S'il y a certains serpents qui sont venimeux, c'est tout simplement pour pouvoir tuer des proies, pour pouvoir manger. C'est un massif de 5000 hectares, exactement 4800 hectares. Et ça, la particularité, bah, vous l'avez dit un petit peu dans l'introduction, c'est qu'il y a c'est une forêt domaniale. Et il y a une partie de cette forêt qui est classée en réserve nationale de chasse des faunes sauvages. C'est-à-dire que c'est 2600 hectares, soit à peu près la moitié du massif, qui est complètement clôturé, isolé un petit peu du reste. Et donc différents acteurs sont venus pour travailler sur ce site. Et donc on l'a donc appelé maintenant une réserve nationale de chasse et de faune sauvage, c'est-à-dire que c'est un endroit où il n'y a pas de chasse, mais par contre il y a énormément d'études et de suivi qui est fait sur des populations comme la population de chevreuils principalement, et également certains reptiles.
Thank you.
animaux ici. Hein. On ne voit pas de vaches.
Des arbres ?
Oui, des arbres un petit peu. Beaucoup sont partis, en fumée, oui.
Depuis que vous êtes là ?
Depuis que je suis là, pas tellement les arbres embosqués, mais les haies, oui, très nettement.
Les buissons de la fréquence buissonnière disparaissent ?
Les buissons disparaissent, oui, même encore actuellement. Alors j'ose espérer qu'on les replantera ailleurs, une fois les terrains remis à des dimensions qui conviennent mieux à l'agriculture actuelle. On incite les gens à en replanter. Parfois c'est une catastrophe effectivement d'avoir enlevé les arbres, puisque les arbres pompaient l'eau en excédent et la restituaient. L'arbre restitue son eau l'été. Tandis qu'ici, bah, si on enlève les arbres, évidemment, cette fonction-là n'existe plus. Et quand il y a des inondations, voilà. Et puis les arbres étaient plantés le long de chemins et de routes selon une certaine façon, avec un fossé en bordure qui récupérait l'eau, qui drainait. Bon, si on enlève ça...
On a mis la grenouille Rainette, l'invite à monter sur son dos. En quelques bonds sur l'herbe verte, elle le dépose au bord de l'eau. Mais dans la mare, y a un canard qui veut manger de l'escargot. Cache-toi sous le nez.
Conditionnaire, c'est sur 102.9.
Bonjour, je m'appelle Julie et je suis journaliste. Je fais une enquête sur la haie, car il me semble que nous arrachons de plus en plus de haies autour de la Tillée. Je vais interroger les habitants de la haie et quelques personnes. À Lapin, bonjour monsieur Lapin, que pensez-vous de la haie?
Coucou, je suis à Lapin Farceur, mais vous n'allez pas enlever les haies? Dites donc, moi j'en ai besoin pour manger, parce que je mange des feuilles et des herbes. Mais aussi, j'ai creusé mon terrier à côté du chêne. Moi, j'habite dans le trou avec les habitants de la haie et mes lapereaux. Excusez-moi, mais il pleut. Au revoir, à bientôt. Et puis, j'étais ravie de faire votre connaissance.
Oh, des écureuils! Bonjour, monsieur les écureuils!
Coucou, c'est nous les écureuils. Nous allons vous parler du chêne, car nous habitons dans le chêne. Nous vivons dans le trou du vieux chêne. Il est très vieux, il a peut-être 500 ans. Ses feuilles sont simples, non dentées, elles sont lobées. Mais moi, ce n'est pas les feuilles que j'aime, c'est les glands.
Nous mangeons aussi les noisettes du noisetier et la tête du châtaignier.
Oh, nos petits nous appellent, excusez-nous.
Tiens, un oiseau, bonjour monsieur l'oiseau. Vous habitez dans l'œil?
Oui, bonjour, je suis monsieur le rouge-gorge. Oui, j'habite dans la haie. Je n'aime pas quand on défriche, car mon nid qui est dans ma haie est détruit. Je suis bien dans ma haie et j'aide les paysans en mangeant tous les insectes. Mais par contre, il faut que je fasse attention, parce que si je mange des insectes vivants ou morts, qu'on mange de l'insecticide, je peux m'empoisonner. Mon arbre préféré dans la haie, c'est l'orme, car il cache plus de 400 espèces de petites bêtes.
Ah, des vaches! Bonjour, mesdames les vaches! Que faites-vous ici?
Nous, les vaches, nous aimons les haies, car ça nous tient chaud et ça nous protège. Quand il y a des haies, nous donnons plus de lait à nouveau. Et l'herbe de la prairie est plus haute et plus belle.
Aussi, nous mangeons des feuilles, des arbres de la haie. Et c'est bon. Ces 50 dernières années, 2 millions de kilomètres de haies ont disparu.
Et ça nous énerve.
Ah, attention, vous allez marcher sur un escargot.
Je me présente, je suis l'escargot. J'ai mangé des feuilles de la haie aujourd'hui. Et je n'aime pas qu'on enlève les haies. Ça me tient chaud et je dors bien. Si quelqu'un vient, personne ne me voit car les feuilles me cachent de la haie. Et personne ne me mange. Ah, vivement la pluie que je sorte un petit peu.
Un animal tout roux, qui êtes-vous?
Je suis le renard, je chasse et la renarde s'occupe de nos petits.
Que faites-vous dans la haie?
J'y trouve de quoi me nourrir. Des graines, des baies, des racines, des feuilles, mais surtout des petits animaux. Les haies est pleine de mulots, de campagnols et de lapins délicieux. Je n'aime pas quand il n'y a pas de haies. On n'est pas protégé ni abrité quand il pleut. La haie, c'est très efficace. Sauf s'il y a le chasseur ou les enfants qui nous défendent notre terrier.
Ah! Au secours, un serpent!
N'ayez pas peur, je suis un serpent de 50 à 70 cm. Je suis la couleuvre. Je mange des souris, des rats, des mulots. Quand il fait froid, je trouve tout le temps des gros tas de cailloux pour me réchauffer. J'aime beaucoup le chaud. J'habite dans une haie. En avril, je me réchauffe et je me réveille.
Attention, madame, il y a un serpent. Qui êtes-vous?
Salut, je suis la grand-mère. Je vais vous expliquer à quoi servaient les autrefois les enfants. Elles servaient à éviter les inondations, à empêcher les animaux de se sauver et à empêcher le vent de rentrer. Au revoir, je veux aller chercher mon manteau. J'ai très froid car on a enlevé toutes les haies autour de chez moi.
Un deuxième oiseau, bonjour, comment allez-vous?
Je suis Madame Oiseau, je suis un pic vert et j'habite un nid dans le noyer car il est gros et je n'aime pas qu'on casse ma maison. Par contre, ce n'est pas mon arbre préféré. Tac, 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 car mon arbre préféré est l'orme car il y a plus d'insectes que dans le noyer. Tac, 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 j'aime bien piquer dans les arbres pour attraper des insectes. Oh, excusez-moi, je vais aller pondre un œuf.
Oh, regarde le petit oiseau dans son nid.
Oh, il est beau, on dirait un jet avec ses ailes bleues.
Viens, on va cueillir des mûres pour faire des confitures.
D'accord, et quand on aura fini les confitures, on ira construire une cabane.
Oh, regarde, ici, c'est bien pour notre cabane.
Super, toutes ces feuilles par terre, c'est la moquette. Et l'arbre penché, c'est la table.
Et en plus, on est bien caché, personne ne nous verra.
Mademoiselle, mademoiselle, que pensez-vous des...
Si vous les arrachez, nous ne pourrons plus faire de cabane ni cueillir de belles fleurs le long de l'air.
Mais c'est votre grand-père peut-être. Bonjour grand-père, et pour vous, que représente la haie?
Moi, le grand-père. J'ai gardé mes... Elle me protège des inondations, du vent, ça éponge la boue. J'aime bien les promenades dans les chemins bordés de haies. J'observe les animaux sauvages, les écureuils ou les oiseaux. Et je cueille les baies ou les fleurs. Et surtout, pour chasser, je trouve beaucoup de gibier, lapins, pigeons, faisans. Si on détruit les haies, je ne vais plus pour... Vous ne pouvez rien faire, moi. Et mes vaches, où vont-elles aller? Allez, viens, mon chien.
Et je vois votre chien qui renifle quelque chose dans la haie. Bonjour, le chien.
Bonjour, je suis le chien de chasse. Quand il y a du gibier, j'aime le rapporter à mon maître. Et dans la haie, il y en a du gibier, des lapins, des perdrix, des perdreaux et même des renards.
Au revoir. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes convaincus de ne plus arracher les haies.
Fréquence buissonnière. Radio des écoliers et des écolières.
As quatro estações. No ano tem mês, dias, horas, trimestres. Mais tem quatre estações.
Les quatre saisons. Dans l'année, il y a des mois, des jours, des heures, des trimestres. Mais il y a quatre saisons.
a primavera, o verão, o outono, o inverno. Na primavera, tem as flores que pus, as aves verdes com flores, e os pássaros que vêm. Le printemps, il y a les fleurs qui poussent, les arbres verts avec des fleurs et les oiseaux reviennent. No verão tem as árvores cheias de fruta, de manhã os pássaros que cantam et o sol brilha. En été, il y a les arbres pleins de fruits, le matin les oiseaux chantent et le soleil brille. No outono o tempo muda, os pássaros partem, o sol dorme. E a chuva vem nos molhar. As aves ficam sem folhas. En automne, les temps changent. Les oiseaux partent, le soleil dort et la pluie vient nous mouiller. Les arbres deviennent sans feuilles. En hiver, la neige tombe. Les bonhommes de neige apparaissent. Une bonne saison pour les commerçants. Les arbres gèlent. No inverno, a neve cai. O boneco de neve aparece. Uma boa estação para os comerciantes. As aves chelam. Lucia.
Poème à la manière d'Eugène Kilivic. Imagine le temps que met le soleil à se lever. Imagine le temps que met la pluie à tomber. Imagine le temps que met la poule à pondre un œuf. Imagine le temps que met le maçon à bâtir une maison. Imagine le temps que met un film à se tourner. Imagine le temps que met un écrivain pour écrire un livre. Imagine ce que tu ferais de tout ce temps. Angélie Bertrand.
Poème à la manière d'Alain Bosquet. Les 12 mois de l'année. Janvier pour annoncer la bonne année. Février pour aller à la neige. Mars pour annoncer le beau temps. Avril pour dire bonjour aux oiseaux. Mai pour dire les Alliés ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Juin pour dire je passe en sixième. Juillet pour aller à la piscine. Août pour dire je vais en camp. Septembre pour dire c'est la récolte du blé. Octobre pour dire c'est notre mariage. Novembre pour dire regarde les arbres ont perdu leurs feuilles. Décembre pour dire c'est bientôt Noël. Violaine.
Mon premier fait miaou. Mon deuxième fait de la danse à l'opéra.
Mon troisième se situe entre 1 et 3.
Charade. Charade.
Mon premier fait tic-tac. Mon deuxième se cache derrière les lunettes. Mon troisième est le contraire de mauvaise. Mon quatrième... Et avant de mon tout est un village. La solution. Mon premier fait tic-tac.
C'est une montre.
Mon deuxième se cache derrière les lunettes.
Un œil.
Mon troisième est le contraire. Frère de mauvais.
Bonne.
Mauvaise.
Bonne.
Mon quatrième est avant de
un.
Mon tout est un village.
Fréquence buissonnière, radio des écoliers et des écolières.
Dans ma chambre, il y a mon lit, mon bureau, la photo de mon chat, mon plumeau et puis mes yeux qui clignent, comme ça. Florian Thoré.
Voici un avis de recherche.
Bonjour, je suis Victor, de la classe de CM1 de l'école du Petit Bois de Vouillé. J'ai perdu mon chat qui s'appelle Souti, et ça fait plus de 3 mois qu'il est parti. Je vous dis que c'est dur de tenir le coup, car on dirait que ça fait 1 an qu'il m'a quitté. Puis, j'ai récupéré mon chat, adopté par un autre enfant. Le chat avait gratté chez une copine de ma mère. Je n'étais pas vraiment sûre que ce soit Souti. Alors, maman l'a emmené chez le vétérinaire, qui a examiné sa patte arrière gauche. Il n'y avait pas de marque, alors que je lui avais marché dessus quand il était petit. Le vétérinaire a observé des cartilages, ce qui prouve que ce chat avait moins d'un an. Ce chat n'était donc pas Souti. Tous les soirs, je pleure dans mon lit. C'est dur de tenir le coup, surtout quand on a 9 ans. Mon beau-père, mon père, mes grands-parents, ma mère, ma petite sœur, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, tout le monde est triste. Mais si Souti ne revient pas après l'été 2002, on changera de chat. On prendra peut-être un persan. Et si son poil est bleu, on l'appellera Sonic. J'espère que mon prochain chat ne s'en ira pas aussi longtemps que Souti. Si vous trouvez Souti, téléphonez à l'école du Petit Bois au 05 49 51 48 58. Souti est un chat siamois, gris clair avec des stries noires sur la tête et les deux pattes avant blanches.
Le feuilleton.
Le feuilleton.
Sacré peur chez les chadeurs.
Sacré peur chez les chadeurs.
Épisode 2. Arrivée à l'hôpital.
Les saluts arrivent. Ils sont 3 ambulanciers à sortir du caillou. Ils se dirigent vers l'attroupement qui s'est formé autour de Marc.
Bonjour, comment t'appelles-tu?
Marc.
Quel âge as-tu, Marc?
10 ans.
Alors, où as-tu mal?
Marc montre l'endroit du ventre où il souffre. Les hommes déposent Marc sur une civière et regardent exactement où il a mal. Ils le transportent jusqu'au camion. Marc a peur, très peur. Il pleure. Il voudrait voir ses parents et ses copains. Le camion démarre et part en enclenchant la sirène. Pendant le trajet, les accompagnateurs lui posent des questions et essaient de le rassurer. Un quart d'heure plus tard, l'enfant aperçoit au loin l'hôpital Marc entre. Cet établissement comporte à peu près 10 étages. Les fenêtres sont drôlement grandes.
Tu vois, Marc, tu sais, on va te descendre de l'ambulance et t'emmener dans une chambre.
Marc a la tête qui tourne. Il a l'impression de voir plein de médecins autour de lui. Les ambulanciers le sortent de la voiture, le mettent dans un ascenseur et le conduisent à la chambre numéro 32. En circulant dans les couloirs, Marc remarque qu'il y a un ascenseur à chaque étage. À l'intérieur, les murs sont blancs. Dans les couloirs, il y a du lambris. Dans la chambre de Marc, on voit un lit, une armoire, une petite salle de bain avec un lavabo. En face du lit se trouve une télé, et à côté, il y a 3 fauteuils. 3 infirmières sont déjà dans la chambre.
Bonjour, nous sommes Joël, Claudine et Ginette. Nous allons nous occuper de toi pendant ton séjour ici.
Claudine a les cheveux longs, elle est brune, ses yeux sont verts et elle est grande. Ginette, elle, est petite. Ses yeux sont marrons, cachés derrière une paire de lunettes. Ses cheveux sont châtains, courts et raides.
Alors, comment t'appelles-tu?
Demande Claudine.
Marc.
Quel âge as-tu?
Dit Ginette.
10 ans.
Les infirmières notent tout ça sur une feuille qu'elles installent au pied du lit.
Marc, tout à l'heure, le médecin va passer. Il va t'ausculter pour voir de quoi tu souffres.
Lui explique Ginette. 3 minutes plus tard, un homme vêtu d'une blouse blanche, joufflu, les cheveux blonds et courts, les yeux bleus, entre dans la chambre accompagné d'une infirmière.
Bonjour Marc, je suis le docteur Dutheil. Alors qu'est-ce qui t'arrive?
Marc explique son problème. Le médecin l'auscule, il prend son stéthoscope et écoute son cœur. Puis il palpe son ventre. Marc crie à chaque palpation.
Je crois bien que tu nous fais une crise d'appendicite, mon petit bonhomme. Mais nous allons vérifier en te faisant une échographie.
Marc va dans la salle de radiologie accompagné par 2 brancardiers. L'échographiste lui met un drôle de gel bleu sur l'endroit du ventre où il a mal. Il constate lui aussi une appendice inflammée. Il va falloir l'opérer.
Regarde Marc, le docteur. On voit que tu as une crise d'appendicite.
C'est quoi une appendicite?
C'est quand
L'appendicite est plus grosse que la normale, c'est ça l'appendicite.
Et c'est quoi l'appendice?
C'est le prolongement du gros intestin.
On ramène ensuite Marc dans sa chambre. Tout de suite, une infirmière vient lui demander si tout s'est bien passé. Soudain, la porte s'ouvre.
Papa, maman, vous m'avez manqué!
S'exclame Marc. Marc était tellement ému de voir ses parents qu'il se met à pleurer. Quelques instants plus tard, le chirurgien entre dans la chambre de Marc, serre la main de ses parents et leur explique ce qui va se passer pour leur fils.
Madame, monsieur, nous allons devoir opérer votre fils car il a une crise d'appendicite. On lui a déjà fait passer une échographie. Les infirmières viendront lui prendre sa température, sa tension et vérifier qu'il est à jeun.
Peu de temps après, Joël, l'infirmière, pénètre activement dans la chambre de Marc. La jeune femme est grande, rousse et ses yeux sont marrons. Elle prend la température de Marc.
Oh, dis donc, 39 degrés, tu es fiévreux. Bon, Marc, je vais maintenant prendre ta tension.
Elle lui passe un scratch autour du bras et appuie sur une petite poire en plastique qui comprime le bras.
12, c'est bien. Dis donc, Marc, avais-tu mangé ce matin?
Oui, mais je n'avais que moitié de mon bol de chocolat.
Bon, je verrai avec l'anesthésiste si on peut t'opérer tout de même.
En début d'après-midi, Claudine lui donne un médicament pour l'endormir. Quelques minutes plus tard, le médicament commence à faire effet. Quand Marc est endormi, les brancardiers l'emmènent dans la salle opératoire.
À suivre.
Laboratoire.
Je suis élève de la chapelle Montreuil et comme chaque soir, nous allons vous proposer une énigme.
Drôle d'œuf, énigme. Pour transporter les œufs durs, le petit chaperon rouge les infiltre dans une bouteille. Comment fait-il ?
Expérience. Prenez une bouteille, faites chauffer l'eau. Versez l'eau bouillante dans la bouteille. Tenez-la et faites tourner le liquide avant de vider rapidement la bouteille. Placez aussitôt l'œuf sur le goulot.
Conclusion. Alors que l'œuf est plus gros et plus large que le goulot, il s'y glisse et tombe dans la bouteille.
5 personnes ont participé. Jean-Baptiste, Sylvain, Amélie, Maëlle et Chloé.
Fréquence buissonnière. Radio des écoliers et des écolières.
Bonjour Monsieur le Recteur. Voici Monsieur le Recteur avec les enfants CM2 de la Chapelle Montreuil qui vont interviewer Monsieur le Recteur.
Avez-vous fait déjà d'autres métiers ?
Ah oui, j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai été enseignant d'abord, enseignant en collège, enseignant en lycée. J'étais inspecteur d'académie, puis je me suis occupé de l'ensemble de l'enseignement en France et puis je suis arrivé à Poitiers l'année dernière.
Pourquoi faites-vous ce métier ?
Je fais ce métier parce qu'il m'intéresse. Que dans l'académie, je m'occupe de tous les enseignements depuis l'école maternelle jusqu'à l'université et que c'est un métier très intéressant dans la mesure où il est d'une part extrêmement varié et où il permet de rencontrer énormément de personnes, des grands et des moins grands comme c'est le cas aujourd'hui.
Quel est votre travail en général ?
Alors, mon travail en général est très varié. Le lundi, par exemple, au rectorat, pour travailler avec mes collaborateurs, préparer tout le travail de la semaine, donner des orientations, regarder ce qui s'est fait. Le mardi, en général, je suis à l'extérieur pour aller voir dans les classes des écoles, des collèges ou des lycées, ce qui se passe. Et les trois autres jours de la semaine, ça dépend de l'agenda, du calendrier, des différentes manifestations. Je suis ou à l'intérieur du rectorat pour recevoir des gens qui demandent à être vus, ou à l'extérieur pour participer à un certain nombre de réunions ou de manifestations.
Connaissez-vous d'autres recteurs ?
Bien sûr, puisque nous avons une réunion chaque mois autour du ministre rue de Grenelle à Paris, au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, il y a 30 recteurs en France et je connais chacun des recteurs des autres académies, évidemment. Ce sont des collègues avec lesquels nous discutons, nous indiquons au ministre les difficultés que nous pouvons avoir dans chaque académie et on essaye de l'éclairer pour qu'il prenne les décisions qui paraissent satisfaisantes pour l'enseignement.
Est-ce que vous avez des gardes du corps ?
Ah non, je n'ai pas de garde du corps, non.
Pourquoi ?
Non. Bon, parce que ça ne me paraît pas indispensable. On a encore rarement vu un enseignant agresser un recteur, enfin jusqu'à maintenant en tout cas.
Avez-vous déjà fait une chose importante ?
Ah, je ne sais pas ce que tu appelles les choses importantes, mais il m'arrive de prendre assez souvent des décisions qui sont d'importance variable pour que le système éducatif et donc l'enseignement que vous recevez dans les écoles ou dans les collèges ou dans les lycées se passe le mieux possible. Donc sortir une décision particulière à ce moment-là, c'est difficile.
Avez-vous déjà travaillé dans d'autres départements ?
Oui, bien sûr. J'ai enseigné dans le département de l'Isère pendant presque 25 ans. Ensuite, je suis allé travailler dans le Nord, à Dunkerque. Ensuite, je suis allé travailler à Paris pendant 12 ans. Et je suis maintenant à Poitiers depuis un an.
Dans notre rue, il y a une forêt, des enfants, de la pluie et des parapluies. Et puis mon cœur qui bat tout bas. Alison.
Donc bonjour monsieur le recteur.
Bonjour.
Comment l'éducation aux médias peut-elle développer l'esprit critique et la maîtrise de la langue ?
Pour la maîtrise de la langue, c'est assez facile parce que avant de parler devant le micro, je sais que vous devez préparer vos textes, les travailler, les retravailler. La présentation orale vous oblige à faire un effort pour avoir un discours, disons, assez correct sur le plan de la langue. Ce qui est un peu différent du discours ou des dialogues que vous pouvez avoir dans la cour de votre collège. Donc de ce côté-là, c'est important. L'aspect qui est intéressant, effectivement, c'est que vous puissiez voir comment on peut manipuler un texte, finalement, ce dont vous n'avez aucune connaissance si vous ne faites pas ce travail. Comment on peut couper un morceau de phrase, comment on peut sortir un élément de son contexte pour changer complètement le sens, par exemple, c'est un travail intéressant au point de vue critique. Et donc, ça vous permet de savoir ce qu'on peut faire avec la phrase. Et encore, on ne vous a pas montré la reproduction ou l'imitation des voix et avec des textes un peu farfelus. Donc, je pense que sur le plan critique, ça peut être aussi très intéressant comme travail.
Le projet radio vous semble-t-il conforme aux directives sur la maîtrise de l'expression orale et écrite ?
Oui, ça vous oblige, le travail que vous faites ici vous oblige à travailler d'abord à l'écrit, à réfléchir sur des textes, à les écrire correctement et à les exprimer de façon orale devant un micro, ce qui est toujours un peu impressionnant et qui doit par conséquent vous donner l'habitude de vous exprimer en public. Donc c'est une excellente approche de la maîtrise de la langue.
Dans un monde où il y a abondance d'informations, comment l'école peut-elle aider à faire le tri ?
Ouh, la question est difficile là. D'abord parce qu'on ne peut pas avoir accès à toutes les informations ou à toutes les sources d'informations. Je crois que ce qui est important, c'est que justement on puisse développer votre esprit critique. Ça va être intéressant d'ici quelques temps puisqu'on a les élections présidentielles. Et je crois que ce serait intéressant que vous regardiez le soir à la télévision, au moins en début de soirée, comment vont réagir les hommes politiques aux résultats qui sont proposés et que vous analysiez avec votre professeur d'instruction civique le lendemain les propos qui auront été tenus. C'est rare, vous le verrez, que tout le monde ne soit pas content de ces résultats et avec 3% ou 15% ou 17% montrera et essayera de mettre en évidence que c'est un succès pour lui. Donc vous apprécierez après et vous pourrez exercer votre analyse critique sur les propos qu'ils auront tenus.
Y a-t-il eu déjà un projet radio dans l'académie ?
Je peux vous citer au moins deux établissements qui pratiquent des émissions de radio. Radio Collège émet à Étrée en Charente-Maritime depuis plus de 10 ans. Et au lycée Pilote Innovant, il y a une station de radio, la station Delta.
Alors on a eu les CM2 de la Chapelle Montreuil et les élèves du collège. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Allô ? Moi j'étais à la pêche. T'étais dans quel jour ? Hier. Et puis moi j'étais, quand on n'avait pas d'école, j'étais à la Bretagne pêcher. Il y avait Marc et puis papa aussi. On voulait pêcher des poissons. Et puis on a pêché.
Comment ils s'appelaient les poissons que vous avez pêchés ?
C'est facile à dire. Parce que papa n'a pas dit.
Moi j'ai vu un tout petit poisson à la pêche, mais il était mort, il était dans l'eau. Tu sais, moi, j'arrêtais pas de tomber dans des trous d'eau. Trois fois dans un trou et une fois dans un trou avec de l'eau. On n'arrivait pas à m'empêcher, mais il y avait des poissons qui passaient par le petit tuyau. Mais on a pêché là, il n'y avait pas de poissons qui passaient.
Bah, tu sais, moi, je sais comment on peut pêcher. D'abord, on accroche quelque chose pour que le poisson y mange. Puis après, quand le poisson y mange, il faut l'attraper, il faut tirer.
Je sais, moi. Il faut mettre un petit peu d'eau, un petit peu de sable, et on le tourne avec sa main, et on le jette. Ça attire les poissons. On n'en a pas.
C'est des vers de terre tout petits qu'il faut donner aux poissons. Parce que les poissons aiment bien ça.
Quand on allait rentrer, on avait vu un crapaud mort.
Crapaud mort ?
À côté de l'eau.
Bah tu sais, le crapaud il mange des mouches.
Le sais, non. Il était mort, il mangeait pas de mouches.
Quand il était mort, c'est qui l'a tué ?
Je sais pas, je l'ai pas vu. Au revoir.
Au revoir.
Et hop !
Devinette. Devinette. Devinette.
Bonjour, nous sommes les enfants de CP de l'école de Quincey. Nous nous retrouvons pour vous proposer la suite de nos devinettes fruits. Tout d'abord, voici les réponses aux devinettes proposées hier. Il fallait trouver la pomme, la noisette, la groseille, la noix de coco, la fraise. Aujourd'hui, Faustine, Florian, Dorine, Océane et Alexia vous proposent leur devinette.
Il a plein de graines sur lui. Il est rose foncé. Il est presque pareil que la mûre. On en fait des délicieuses gelées.
C'est un fruit jaune, sa peau est douce, elle est difficile à enlever. Ce fruit a une forme de poire, mais ce n'est pas une poire. Il ne se mange pas cru. Pour le manger, il faut le faire cuire. On en fait des compotes et des gelées.
Mon fruit est gros, il a la peau marron, sa pulpe est jaune. Pour le manger, on le coupe en quartiers. Il ressemble à une tête de bonhomme avec des cheveux pointus. Ce fruit ne pousse pas en France. Il pousse dans un arbre qui a de très grandes feuilles. C'est un fruit jaune. Il a une forme allongée.
C'est un fruit qui pousse dans un arbre. La peau est granuleuse. Il est orange. Il est plus petit qu'une pomme.
Vous avez trouvé les réponses. Notez-les bien. Envoyez-les-nous par mail. Nous vous répondrons. Ou bien attendez demain et nous vous donnerons les solutions au début de l'émission. Voici notre adresse, classe 3-15c@cg86.fr.
Avec Vincent et Sébastien.
Et non, ça joue toujours.
Avec Vincent et Sébastien.
On se demande où est passé l'arbitre.
Avec Vincent et Sébastien.
Ah, de l'arrêt du gardien.
Bonjour, aujourd'hui avec Vincent et Sébastien, on va vous présenter une petite séquence sur le badminton et avec des filles, deux élèves du collège. Il y a Élise et Marine, c'est ça? Alors est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation pour nos auditeurs?
Bon bah, je m'appelle Élise, je suis en 4e au collège de la Tillée et je fais du badminton le mardi soir. Donc avec Marine.
Voilà, Marine, petite présentation aussi.
Voilà, donc je m'appelle Marine, je suis en 4e A et je pratique le badminton dans le même club qu'Élise à Vouillé.
Alors pourquoi avez-vous commencé le badminton? Comment vous en êtes venu au badminton?
On en a fait au collège en 5e et donc pour Noël on m'a offert des raquettes de badminton à filet, de volant, voilà, et après je me suis inscrite.
Pouvez-vous nous dire un peu ce que c'est le badminton, enfin les règles et tous les trucs comme ça quoi?
Bah ça consiste à se renvoyer un volant. On est deux. Et faut marquer les points, faut pas le faire sortir.
Ouais, alors le badminton, vous jouez avec des raquettes et un volant, donc en fait c'est un petit peu comme le tennis, mais en salle quoi. Je voudrais savoir comment ça se passe au niveau du service. Est-ce qu'il faut avoir le service pour marquer un point, ou alors est-ce que c'est comme dans les nouvelles règles du volley où c'est carrément je marque et j'ai le point?
Non, c'est faut avoir le service, donc oui, pour marquer le point, c'est celui qui sert qui peut gagner. Voilà.
Et vous jouez obligatoirement un contre un au badminton?
Bah le plus souvent oui, c'est comme ça, un par un.
Mais ça se peut que vous jouiez en double?
Bah oui.
Et faites-vous des compétitions, je veux dire, est-ce que vous participez à des tournois ou voilà?
C'est possible, oui, mais pour l'instant, on n'en fait pas encore. Faut d'abord qu'on progresse.
Ah bon, ok. Vouillet, là, ils sont classés combien dans le championnat, là?
Il n'y a pas de championnat.
Ouais, attends, au point de vue des entraînements, vous en avez combien par semaine?
Bah, c'est une heure par semaine, le mardi soir, de 19h à 20h.
Et pour pratiquer le badminton, environ, c'est combien les prix pour par exemple une année ou alors un trimestre ou toi?
C'est 350 francs à l'année.
Ah ouais, les entraînements et les championnats, les...
La licence.
Oui, oui, tout est compris.
Est-ce qu'il faut forcément avoir une bonne condition physique pour pratiquer ce sport? Genre, par exemple, dans le foot, faut avoir de l'endurance ou voilà quoi.
On court tout le temps d'un bout à l'autre du terrain, soit on avance, on recule, à droite, à gauche. Enfin, faut bouger énormément, oui.
Ouais, on n'a pas l'impression, mais c'est fatigant ça, hein, ce
matin.
Ouais,
c'est assez physique, truc. On en a fait ce matin, on est mort là. C'est bon. Et
au point de vue équipement, qu'est-ce qu'il faut pour faut des genouillères ou des trucs comme ça pour pas se faire trop mal?
Je viens de le dire, moi, ça.
Non.
Ouais. Bah, non, on se jette quand même pas par terre. Ouais. Non, non, c'est... Non, il n'y a pas besoin de protection.
Et est-ce que dans un futur proche, est-ce que vous souhaiteriez faire des compétitions et peut-être plus tard jouer à haut niveau?
Est-ce que ça vous branche?
Ouais, ça me branche, ouais. Mais bon, faut que je m'améliore encore parce que je suis un peu nulle, quoi.
Si t'avais des gens à convaincre, comment est-ce que tu pourrais leur dire, voilà, le badminton c'est bien?
Faut venir, ouais. Faut venir, on est que deux filles dans le club, ouais. Faut venir. Allez, les filles!
Deux filles?
Ouais.
Et dans le club entier, vous êtes combien?
10.
10, bon, ok.
Ouais, ça fait pas beaucoup, ça, quand même.
Ouais. Bon ben, on a fait le tour, non? Non, mais on a fait un petit panorama encore de ce qu'était le badminton et les filles en général, qu'est-ce qu'elles font dans le sport. Donc ben, merci Élise, merci Marine, pars en cours, toi.
Elle va bosser un peu, elle est pas là.
Ouais, ouais, t'as une interro là, je la connais.
Ah, t'as une interro en plus?
Ah, c'est cool. Ouais, en SVT. Ouais.
Tu diras bonjour à Libère de ma part.
Ouais, bonne chance. T'es vite, s'il te plaît.
Oh merde.
Bon ben voilà, ben au revoir tout le monde, hein, et puis à la prochaine. Salut Vincent.
Salut! Allez hop! Voilà. C'est cool.
102.9.
The weather forecast.
The sun.
The weather forecast.
Comment?
The weather forecast.
The sky.
The weather forecast.
Comment?
En anglais, ça veut dire la météo.
Comment?
102.9.
The weather forecast.
Ah, là, je crois que j'ai compris.
Quoi?
The weather forecast.
Aujourd'hui, avec
Laura,
Christopher,
Morgan,
Christelle,
Gaël,
Ludivine.
Hello. Today is Tuesday, March the 19th.
What's the weather like today, Christopher?
Oh, it's awful. It's raining cats and dogs.
Il pleut des chats et des chiens.
Non, il pleut des cordes. What a miserable day.
It's raining pouring down.
Yes, I know. It's raining a lot.
Tell me, the divine, what goes up when the rain comes down?
Let me think. An umbrella?
That's it.
Is it raining too in Alaska?
Why Alaska?
Because I've got a postcard from Peter.
Can you read it for us?
Of course. Here I am in Alaska. It's a cold of duck
I
and
don't understand.
A cold of duck is French.
What is it in English?
It's freezing cold.
So, it's a cold of duck here. It's snowing at the moment and the bush is all white.
The bush is all white? What's that?
Ben, les buissons blancs.
No, les buissonnières.
But are you sure Peter really was in Alaska?
Why?
Because there is no bush in Alaska.
Alors, il va faire beau ou pas?
Ah oui, il va faire très beau.
Mais non, ils ont parlé d'Alaska.
T'as rien compris.
Comment?
Comment?
Terre de grottes mortes.
Et hop! Dans notre planète, il y a des pays, des villes, des océans. Et puis mon cœur qui bat tout bas.
Au revoir, au revoir, au revoir. Et à demain, de 18h à 19h, sur Fréquence Buissonnière.
Dans notre pays, il y a des villes, des rues, des plages. Et puis mon cœur qui bat tout bas. Et hop,
au revoir.
Et les buissons disparaissent, oui.
Dans notre ville, il y a des fêtes, des églises, des nuages gris. Et puis mon cœur qui bat tout bas.
Fréquence buissonnière de 18h à 19h, 102.9.
Ouais, ça sert à rien de le répéter tout le temps.
Je l'ai dit tout à l'heure.
Écoutez leur, dit-il, ce que vous dit le grain.
Dans notre rue, il y a une forêt, des enfants, de la pluie et des parapluies. Et puis mon cœur qui bat tout bas.
Dans ma vallée, il y a Lausanne, cette rivière majestueuse et fière qui chante et clapote sur les cailloux clairs. Et moi, de la fontaine au lavoir, de l'école à la mare, je cours, toujours, toujours.
Dans ma commune, il y a 100 000 arbres, chênes, érables et robiniers pour étouffer les déchets. C'est Anote, Seringa et Forsythia pour fleurir mon jardin à moi. Chênes, hêtres ou peupliers qui habitent à la forêt ou la vallée. Il en est un qui est fils unique. Il habite à l'école publique. C'est un chêne d'Amérique. Comme lui, je cours, toujours, 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 toujours.